Bonjour Monseigneur Mika.
Bonjour.
Cette semaine, vous êtes à Rome pour une session de formation. Notre interview, désormais hebdomadaire, a donc lieu par téléphone, en duplex. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette session de formation que vous suivez depuis le début de la semaine à Rome ?
Eh bien, en effet, nous avons tous les nouveaux évêques du monde entier sont invités une fois par an à participer à cette session qui est organisée par la Congrégation pour les évêques, qui est en charge donc de la nomination des évêques dans le monde entier, ainsi que la Congrégation pour l'évangélisation des peuples pour les pays dits de mission. Et donc nous sommes 180 évêques en session de formation venant du monde entier. Voilà, et c'est extrêmement fraternel, les contenus sont intéressants. Par exemple, le premier jour, on a eu toute une réflexion sur le synode en cours dans l'Église et le nouveau style que le pape François veut pour l'Église tout entière, dans un mode de gouvernance renouvelé, différent. Et donc, les responsables du secrétariat du synode sont venus nous en parler. Puis, on a eu hier une rencontre avec les responsables du dicastère pour les Églises orientales. On a eu toute une réflexion aussi sur la société contemporaine dans laquelle nous sommes envoyés avec toute l'Église. Voilà, des tas de questions aussi canoniques sur la gestion juridique d'un diocèse, et puis des questions aussi sur les abus et la manière de se comporter dans la gouvernance de l'Église dans ces situations. Et voilà, donc des contenus. Le off est aussi extrêmement intéressant,
une
rencontre de confrères du monde entier. Voilà, c'est très fraternel.
Voilà pour cette session universelle, on va dire, que vous suivez donc
ça,
à Rome.
Exactement.
Et donc vous serez de retour dans notre diocèse de Tarbes-et-Lourdes en fin de semaine ?
Voilà, la session ici se termine lundi. Lundi prochain, hein, c'est donc 8 jours pleins. Lundi prochain, nous sommes reçus par Sa Sainteté, le pape François, et voilà. Ça marquera la fin de la session.
Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup quand même de prendre quelques instants dans cet agenda bien rempli, romain bien rempli, pour répondre à nos questions.
Vous savez, il est, paradoxalement, il est plus léger que quand je suis dans le diocèse.
Bon, bah, on tâche d'en profiter aujourd'hui pour faire un petit point avec vous sur l'actualité. Alors, on va évoquer deux points aujourd'hui. Le premier, c'est l'avis du CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique, qui a rendu public ce mardi 13 septembre un avis dans lequel il juge possible la légalisation d'une euthanasie encadrée. Le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé dans la foulée de cette annonce une consultation sur la fin de vie en vue d'une possible nouvelle loi. Quelle est votre réaction à cet avis qui préoccupe beaucoup de personnes, notamment dans l'Église ?
On est ici une délégation de 8 évêques français. On a eu l'occasion d'en parler précisément le soir même où la décision du CCNE a été rendue publique, parce qu'on était reçu à l'ambassade de France près de Saint-Siège. Et donc, il y a eu un échange tout à fait cordial, franc et respectueux avec le représentant de l'État français ici à Rome, qui prévoit qu'évidemment, on ne parte pas tout à fait des mêmes références et des mêmes points de vue. Alors j'ai demandé précisément quelle était la référence du Conseil national d'éthique pour déterminer que ceci est bien et que ceci ne l'est pas. Et la différence avec nous, c'est que nous, on a une référence qui transcende toutes les opinions et toutes les majorités qui pourraient se dégager si on mettait les gens autour d'une même table. C'est ce que la Bible, la révélation, la foi nous dictent. Alors que le Conseil national d'éthique, sa seule référence est le fait qu'au-delà d'un débat, au terme d'un débat, d'un échange, ils mettent au vote et la majorité détermine la vérité, détermine le bien. Bon. Donc forcément, sur cette base de départ, on ne peut pas être tout à fait d'accord. Et précisément sur cette question, elle suscite chez nous et chez moi une inquiétude supplémentaire, parce qu'il y a une possible atteinte à ce qui, pour nous, est extrêmement précieux, c'est-à-dire la vie telle que la révélation et la foi nous donnent de la considérer comme un don de Dieu absolument inaliénable, et à respecter envers et contre tout, en toutes circonstances. Voilà.
Quelle est notre responsabilité de chrétien dans ce débat ? Comment on peut faire entendre notre voix et nos inquiétudes sur ce sujet ?
Eh bien, déjà, à l'égard de nos propres fidèles, qui sont sensibles, évidemment, à tout ce qu'ils entendent, à tout ce qu'ils voient, et aux différents reportages, alors qui bien sûr montrent des situations humaines absolument terribles, tragiques, pour expliquer que évidemment c'est un bon projet de loi puisqu'il mettra un terme à des souffrances insupportables qui de fait sont des souffrances insupportables. Bon. Mais donc ils font appel à l'émotion plus qu'à la raison et pour nous croyants à l'émotion plus qu'à la raison éclairée par la foi. Donc notre responsabilité à nous, pasteurs de l'Église, c'est d'abord d'alerter nos propres fidèles à la nécessité de garder son sang-froid, de prendre un maximum ou un minimum de recul pour se référer à ce que, dans la foi, nous croyons de la vie et de son caractère absolument inaliénable. Bon. Donc, ça d'une part. Et ensuite, d'éclairer d'autre part, autant qu'on le peut, avec beaucoup de respect, mais aussi de courage et de l'engagement, de faire appel à la conscience de tous, qui, sans référence explicite à la foi chrétienne ou biblique, la conscience de tous peut convenir qu'il y a des référents naturels partagés, communs, et au-delà de l'émotion, si on se pose un petit peu, on peut trouver des terrains d'entente. Alors à nous de savoir trouver les mots et la manière d'interpeller ces consciences.
Les visages de l'Église en Bigorre, Anne-Rose Jankovic.
Monseigneur Mika, avec vous aujourd'hui, nous allons aborder un deuxième sujet. Alors, l'actualité plus locale cette fois-ci, puisque dans un communiqué que vous avez adressé aux diocésains, aux chrétiens du diocèse de Tarbes-et-Lourdes ce lundi 12 septembre, vous annoncez que Monseigneur Jacques Perrier, qui fut évêque de Tarbes-et-Lourdes de 1998 à 2012, rejoindra notre diocèse à partir de la mi-novembre. Là encore, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, quel est le contexte de ce retour de Monseigneur Perrier dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes?
Lorsque nous nous sommes rencontrés pendant 24 heures au mois de juin, de la même façon que je l'avais fait aussi avec Monseigneur Brouvet, mon prédécesseur immédiat pour les entendre sur leur perception, connaissance, mémoire du diocèse, de ses enjeux, de ses défis, etc., j'ai été extrêmement surpris. Vraiment étonné de la demande que m'a adressée Monseigneur Perrier, et puis spontanément très très heureux aussi à l'idée de ce retour dans le diocèse. Alors Monseigneur Perrier, comme il l'explique lui-même dans un communiqué qu'il a adressé à un certain nombre de personnes dans le diocèse de Limoges où il est retiré depuis son départ de Tarbes-et-Lourdes, Monseigneur Perrier est membre, prêtre, évêque, incardiné au diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Il fait partie du clergé du diocèse, et donc le droit prévoit qu'il peut y résider si tel est son désir. Donc il m'a fait part de ce désir en le motivant par deux éléments. Un premier élément, c'est le fait qu'il travaille à la rédaction d'une histoire de Lourdes. Nous connaissons ses talents d'écrivain, son engagement au service de Lourdes, du message de Lourdes, de Sainte-Bernadette, etc. Il a déjà produit beaucoup. Et de fait, il a entrepris une grande œuvre qui nécessite de travailler sur les documents qui sont aux archives à Lourdes. Or, il n'est pas question que les documents quittent Lourdes et se promènent ailleurs que là où ils sont conservés. Et donc, il faut qu'ils soient proches des archives. Il m'a invoqué ce premier point, qui est le point, je pense, le plus déterminant pour lui. Et le deuxième point, c'est qu'il se sent encore suffisamment en forme pour travailler, pour rendre service, ce qu'il fait très très bien à Limoges, et l'évêque de Limoges m'a confié qu'il allait lui manquer beaucoup, parce que de fait, il y rend de bons et grands services, et il accepte de continuer cet engagement pastoral au service du curé de la paroisse de Lourdes, où il va résider.
Donc il logera au presbytère de Lourdes et sera en lien avec l'ensemble paroissial de Lourdes.
Voilà, il sera en renfort avec l'équipe des prêtres de la paroisse, de l'ensemble paroissial, et puis il sera plus proche de ses précieuses archives pour continuer son travail intellectuel. Si je peux juste rajouter un tout petit mot, puisque c'est la fête de Notre-Dame des Douleurs, j'ai entendu l'homélie, l'évêque qui présidait la messe, dire que Marie, au pied de la croix, a cette capacité, cette vertu de transformer la souffrance, d'humaniser la souffrance. Alors, la souffrance est là, elle est immense, elle est insupportable, mais la Vierge Marie peut l'humaniser. Alors peut-être que c'est le jour où nous pouvons nous tourner vers elle, justement pour l'implorer pour ces grands débats de société qui nous traversent en ce moment.
Merci beaucoup, Monseigneur Mika. Nous vous souhaitons une très belle semaine de session de formation à Rome avec les nouveaux, les jeunes évêques de France et du monde entier.
Merci beaucoup. Très bonne semaine à vous.
Merci.